Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Emmanuel Morse-Duncan. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi, Lucille Como, Florian Guettet, René Solis, pour parler ensemble de Le Bal de Jeanne Frankel et Com Castro. C'est en ce moment au Montfort Théâtre. Harlem Quartet, d'après James Baldwin, mise en scène par Élise Vigier, à découvrir sur Internet en vous rendant sur le site de Culture Box. Et nous parlerons également du livre de Jean-Pierre Leonardini, Qu'il crève les critiques aux solitaires intempestifs. Aïssa Tundoy est avec nous pour donner à entendre vos commentaires via Facebook ou Twitter. Et puis il y aura des cadeaux à gagner en fin d'émission. Ce soir, des invitations pour l'exposition Robert Adams, Our Lives and Our Children, à voir jusqu'au 29 juillet à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Et pour ouvrir cette dispute, nous allons au Montfort pour découvrir Le Bal, spectacle imaginé par Jeanne Frankel et Com Castro. Tous les genres sont invités au bal, comédie musicale, tragédie, sketch, court-métrage, pour revisiter Roméo et Juliette, remixé par West Side Story et d'autres sources d'inspiration, toutes assumées selon leurs auteurs comme Michel Gondry ou Quentin Tarantino, le tout avec 16 comédiens sur le plateau, dont un couple de deux anciens amoureux qui se retrouvent au même bal de fin d'année dans un spectacle présenté, on va en parler, comme étant de méta-cinéma. Explication à suivre.
Dans un bal de promo de fin d'année...
Enfin, nous y voilà. Pour rien au monde, je raterai cette soirée.
À la vie, à la mort,
c'est nous les matalans.
Deux bandes rivales.
Alors les cocos, la mécanique, ça rapproche à ce que je vois.
Arrête, Francky. On est ici pour passer une belle soirée, non?
Deux anciens amoureux.
Allez, c'est reparti.
Qui c'est le loustique qui tient Marianne dans ses bras?
C'est un gars de troisième année.
Il a eu la mention à son diplôme.
Jamais vu.
Ouais. Vont se retrouver à danser ensemble le temps d'une valse.
Je pense encore à toi, tu sais.
Moi aussi.
Et se raconter la plus belle histoire d'amour. Le bal, du 15 mai au 9 juin au théâtre Le Montfort.
J'espère qu'il y aura du coca cette soirée.
Ouais, il y en a tout le temps.
Alors, est-ce qu'il y avait du soda pour vous, Florent Guettet, en découvrant Le Bal au Montfort?
Ah, ça pétille, hein, ça, c'est indéniable. Première mise en scène pour Jeanne Frankel et Cosme Castro, qui sont habitués des arts visuels, de la réalisation. Ils avaient fait normalement ce clip pour Flavien Berger, qui avait été assez remarqué. Et c'est vrai que on reste dans quelque chose d'extrêmement visuel. Je trouve que la scénographie a quelque chose à apporter, qu'il y a une forme d'inventivité artisanale, etc. dedans. Mais d'un point de vue théâtral, pour moi, c'était un petit peu plus difficile, dans la mesure où on a une forme de parodie, effectivement, de beaucoup de ces genres-là, la comédie musicale, du polar de Tarantino, etc., qui était déjà lui-même une parodie, mais c'est une parodie sans potentiel critique. Donc ça reste une forme de parodie qui reprend tous les effets, en fait, du comique, et qui force un petit peu l'attention du spectateur dans cette direction-là. Ce qui fait qu'on a des salves d'applaudissements à peu près toutes les deux minutes pendant tout le premier tiers du spectacle, ce qui est assez inconvenant pour moi, parce que il y avait un côté un peu racoleur. On vous annonce, il y a des effets d'annonce comme ça sur ce spectacle auquel on est convié. Alors on rentre déjà dans la scène, il y a de la musique ambiante, une musique disco, plutôt dansante, italo-disco même. Donc on a envie de se mettre avec eux à jouer ce bal-là. Mais c'est vrai qu'on y est un petit peu traîné de force sur la piste de danse. Alors, Après, le dispositif n'est pas inintéressant dans ce jeu d'emboîtement. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, trois niveaux quand même de d'emboîtement ou de territoire où se joue la question du réel et de la fiction, puisqu'on est sur une fausse projection de cinéma qui va devenir une scène jouée de théâtre parce que le film est défectueux. Ensuite, on a à l'intérieur de la narration ce jeune homme qui effectivement est dans un bal et retrouve son ancienne amoureuse et qu'il veut séduire, donc il va lui inventer une vie, donc il va lui aussi l'entraîner dans une fiction. Et puis on a une troisième fiction dans ce dispositif méta-cinématographique qui est donc de jouer en direct et de retransmettre en direct le film qui est tourné. Et ça va évidemment doubler l'espace de la représentation. Donc sur ce jeu-là, de où est le vrai, où est le faux, etc., il y a peut-être quelque chose d'intéressant à creuser. Maintenant, sur le fond vraiment narratif et dramaturgique, pour moi, ça pêche un peu, c'est un petit peu faible.
Alors, avant de revenir vers vous tout à l'heure, Lucille Comeau, premier regard sur ce bal.
Oui, je vais rebondir sur ce que disait Florian, je suis à peu près d'accord avec lui, il y a une vraie habileté et une grande énergie qui tient aussi, je pense, à la jeunesse des interprètes, ce sont vraiment de jeunes comédiens, et en effet, ils ont un potentiel en plus, il faut le dire, technique, à la fois de décor, de vidéo, d'utilisation de machines dans la salle du Théâtre Montfort, qui est vraiment importante, on sent que le théâtre a vraiment investi sur le spectacle, c'était sûrement un pari, je pense, pour les programmateurs, c'est un petit peu difficile, je trouve, le résultat, et ce qui est un petit peu compliqué pour eux, c'est qu'ils font le récit d'un échec. En effet, ça commence par une projection cinématographique qui rate. Donc, on va la jouer, en fait, on va jouer le film sur scène. Et de fait, c'est un peu dangereux, je trouve. Parce que, bon, ça marche pas très, très bien. Comme le disait Florian, il y a une sorte de mélange de milliards de références qui en plus sont des références quand même assez lourdes dans la culture populaire, visuelle, cinématographique, donc aussi au teen movie, en effet au film de Tarantino, à la comédie musicale, donc il y a des gestuels, en fait toutes ces références-là, elles jouent vraiment au niveau des corps et de la diction, et elles ne produisent rien, c'est-à-dire que ça fait juste des effets de reconnaissance, donc on se dit, ah tiens, oui, ça ressemble à Grise, ah, ça ressemble à West Side Story, mais ça n'a aucun pouvoir d'évocation. Donc finalement, se produit, chez moi, une forme d'ennui, voire d'agacement un peu, devant le fait qu'on me montre rien. Par ailleurs, il y a en effet énormément d'effets d'annonce, alors que c'est un spectacle assez court. Ça commence par, moi, le soir où j'ai été, je dirais bien un quart d'heure de captatio. Donc tous les acteurs sont devant la scène, y compris le metteur en scène, enfin celui qui en tout cas prend ce rôle-là dans la pièce. Et on a un quart d'heure de blagues, je sais même pas trop comment décrire, d'entrer dans le spectacle et comment ça s'est fait, et les programmateurs nous ont fait confiance alors qu'on était jeunes et qu'on n'avait pas terminé le film, etc. Avec beaucoup de blagues entre eux qui les concernent, clairement, bon, un tel est en retard, un tel est pas là. Sauf qu'en fait, on reste très à l'extérieur et paradoxalement, il y a un nombre d'appels du pied pendant tout le spectacle aux spectateurs qui, je trouve, a l'effet de nous laisser complètement en dehors. Et à la fin, on a un petit peu l'impression d'avoir assisté à une fête, une belle fête, vraiment, parce qu'en plus, c'est très joli. Il y a vraiment, les décors sont beaux, les costumes sont beaux, mais dans laquelle, en fait, on n'était pas invité, quoi. On était un peu à l'extérieur. Je pense qu'il y a un effet peut-être de jeunesse de la troupe. Je me suis aussi dit, c'est peut-être une version un peu intermédiaire et peut-être qu'en se développant, en étant un peu plus long, le spectacle va prendre de la chair. Là, il y a vraiment un problème, je suis d'accord avec Florian, de contenu. Je serais bien incapable de dire de quoi ça parle, ce que ça produit en termes de théâtre, quoi, de dramaturgie proprement dit.
Bon, moi j'ai pas encore vu ce spectacle, mais je commence à avoir quelques éléments. Le regard de René Solis maintenant sur le bal.
Eh bien, je voudrais être plus indulgent que mes petits camarades et j'aurais beaucoup de mal parce que je suis sorti de ce spectacle, je suis rentré chez moi un petit peu mélancolique quand même, en disant ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelque chose d'aussi mauvais même.
Ah oui, à ce point.
Non, il y a surtout cette coquille vide dont vous avez très bien parlé l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un déploiement de signes, on va dire, extérieurs, de référence à des tas de choses, à des tas de gens. Et il y a une vacuité incroyable, quand même, du propos. C'est drôle parce que je pensais qu'il y avait presque une malédiction du bal, parce que le bal, c'est le titre d'un spectacle presque mythique des années 1970, qui avait énormément de succès.
Du Campagnol.
De théâtre du Campagnol, Jean-Claude Pachelin, énormément de succès, et qui fonctionnait. Alors, il y a y avait beaucoup de public enthousiaste. Et je me disais, tiens, ce soir, à ce bal-là aussi, il y a beaucoup de public enthousiaste. Et à l'époque, moi, je l'ai vu, ce spectacle, et je me disais que c'était pas bon du tout, en fait, déjà, si je puis dire.
Le film d'Ettore Scola a eu un très grand succès aussi.
On a fait un film, etc. Et il y avait rien en commun, si ce n'est quelque chose qui fonctionnait beaucoup sur la connivence avec les spectateurs et les appels du pied. Et c'est vrai que ce côté-là m'a beaucoup embêté. Alors, j'essayais de me dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut sauver? Est-ce qu'on peut sauver l'effet de troupe, par exemple? Après tout, ils sont jeunes, ils sont contents d'être là. Et je me disais, mais même pas parce qu'ils sont pas vraiment ensemble. C'est-à-dire que oui, il y a la séance de private joke au début, ils sont contents. Mais quand on regarde leur façon de jouer, ils sont totalement dans des logiques individuelles, ils sont dans des logiques de cours de théâtre, alors c'est qu'ils soient bons ou mauvais, mais avec tous les tics de ce qu'on apprend là, avec les gestes qui viennent toujours souligner les propos, avec les numéros comiques, avec le modèle, la stand-up ou le sketch télé, enfin, on voit très bien, donc c'est pas qu'ils soient mauvais ou bons, encore une fois, c'est que ils ont même pas je trouve qu'il y a pas d'élan collectif, et donc comme il n'y a pas non plus de vrais propos, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, peut-être qu'effectivement, leur talent paradoxal, c'est d'arriver quand même à produire du spectacle, on va dire, à partir de presque rien, parce que ils prétendent d'ailleurs pas que leur histoire est une vraie histoire. C'est à peine un prétexte, une rencontre amoureuse, un ex, un bal. Enfin, il y a rien. Et donc, avec ça, effectivement, ils essayent de faire quelque chose. Alors, peut-être peut-on sauver au moins ça et le côté artisanal de la chose, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un effort sur scène qui fait appel aux capacités de tout le monde, c'est-à-dire que il y a de la musique live, il y a pas d'abus d'effets spéciaux, pas du tout, il y a un côté artisanal de la chose, mais c'est vrai que je suis resté moi terriblement extérieur, je me suis beaucoup ennuyé, oui.
Lucille Comot.
Oui, sur les acteurs, vraiment, c'est dommage parce qu'on les voit pas du tout dans leur capacité de jeu. Moi, je serais moins sévère pour le coup que René. Je vois même pas vraiment de clichés. J'ai juste l'impression qu'ils sont totalement corsetés dans ce qu'on leur a demandé de faire, à savoir cette espèce de boîte à outils avec plein de petits gestes, de petits décors, de petits costumes de la comédie musicale. Et du coup, ils font que ça. Il y a un personnage, par exemple, dont la seule spécificité sur la scène et d'avoir un petit mouvement de hanche à la John Travolta, par exemple. Alors, on sait absolument pas ce que cet acteur pourrait faire d'autre, en fait. Donc, on peut même pas dire qu'ils sont bons ou mauvais ou qui. Je pense qu'on sent une énergie, mais c'est juste qu'elle est pas du tout mise à profit, quoi. Il y a pas de jeu, en fait. Il y a en effet pas de jeu entre eux.
Florian Guettet.
Oui, on aurait pu dire que les décors en fait auraient servi le propos de la fable, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la fable, de la prestidigitation, de la magie, avec ces petits décors en polystyrène, ces parachutes qui sont faits en sac plastique, etc. Cet avion qui est fait sur un échafaudage, etc. qui peut avoir quelque chose d'extrêmement séducteur. Mais le problème, et à ce moment-là, on pourrait effectivement, on en parlait un peu avant avec Lucie, mais se poser la question du degré de lecture et se dire qu'effectivement, en se reculant un petit peu, en prenant le deuxième, troisième, voire quatrième degré, ça passerait. Le problème, c'est qu'il y a quand même des éléments très très littéraux, notamment la chorégraphie. Alors c'est les chorégraphies certes de comédie musicale, mais là on est presque dans la chorégraphie de sitcom, hein, on est beaucoup plus près de ça, avec voilà la gomina et puis les synchronisations un peu faciles, des gestes qu'on a déjà vu beaucoup, et puis la musique, avec Lou Rodinger. Oui, alors au mieux on peut le comparer à William Scheller, au pire ce sera plutôt Obispo ou Calogero, mais en tout cas il y a quelque chose comme ça de cette heure de variété très facile, un peu larmoyante, etc., qui essaie de nous faire tirer des larmes là où il y a pas de raison d'eux, quoi. Effectivement, René disait que la pièce était un prétexte, enfin, qu'il y avait quelque chose dehors du prétexte. Effectivement, ça ne va pas jusqu'au texte, ça c'est évident, et que tout est prétexte à finalement faire jouer ces jeux de spectaculaire, même si du spectacle facile, quoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
Lucille Comot, la musique non plus?
Oui, non, franchement, je vais pas non plus sauver la musique. Bon, on peut aussi quand même signaler qu'il y a un acteur qui s'appelle Richard Samel qui sort totalement du lot, puisque lui, pour le coup, il est beaucoup moins jeune et c'est un acteur qui joue au cinéma, notamment. Alors moi, je le connais surtout parce que je suis une inconditionnelle des OSS 117 d'Azanavicius, et il joue notamment un nazi dans le premier volet qui est extrêmement drôle. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai ça en tête, mais du coup, le voir en vrai, bah, ça me suffisait pour ma soirée. Voilà. J'étais ravie.
Oui, il est bien,
et il est excellent, en fait. Il est excellent. et mais c'est,
il est
très isolé. Mais voilà, mais c'est, et du coup, c'est un peu terrible parce que par contraste, il a une scène, on va dire, où il raconte que Quentin Tarantino l'a appelé pour Inglourious Bastards pour lui faire jouer le rôle principal. Mm. Et puis finalement, c'est pas lui, on le sait quand on a vu le film. Et il le raconte bien, c'est plutôt, c'est un bon passage et c'est un peu terrible parce que c'est justement le passage où il est absolument seul en fait, quasi seul en scène.
C'est une scène totalement gratuite et ça il finit en disant bah non, finalement ça n'a rien à voir,
c'est ça.
Ça n'a rien à faire sur
ça. Alors on sait pas exactement ce qu'il vient faire là et pourquoi pas vraiment pour le coup. Moi le côté oh, allez, on essaye, on s'offre ce type là parce qu'il a une tête incroyable, pourquoi pas, et ça marche bien sur le coup, mais encore une fois ça n'a aucun sens, ça n'apporte rien au sens dramaturgique de la pièce.
René Solis, pour finir peut-être.
Oui, non, et pour finir sur le méta-cinéma, parce que là aussi, quand même, donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Art consistant à projeter des films en même temps qu'ils sont tournés, ou à tourner des films en même temps qu'ils sont projetés. Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Alors, d'ailleurs, ils ne prétendent même pas.
Ils disent qu'ensuite, le méta-cinéma est la ligne directrice de nos recherches et créations.
Oui, mais... Alors,
donc, ils le prennent au sérieux, non ?
Oui, j'espère qu'ils se prennent pas au sérieux, parce que il y a un côté presque gag du coup de la chose, parce que quand on voit quand on pense à ce qu'on peut, au rapport entre cinéma et théâtre, et à comment ces rapports sont explorés beaucoup et énormément, on va dire, depuis 20 ans, on peut pas dire que pour le coup ils sont pas à la pointe de la chose, très loin de là. Donc je pense qu'ils sont pas très sérieux quand ils font ça. Enfin, j'espère pour eux, parce que sinon effectivement c'est pas très bon signe.
Lucille Comeau.
Oui, parce qu'en fait de cinéma ou de réflexion sur le cinéma, il y a surtout de la vidéo, et c'est vrai que de la vidéo, bon, maintenant sur les scènes de théâtre, on en voit beaucoup, mais encore une fois, moi, sur le papier, je trouve pas ça ridicule. Un film en train de se faire, encore une fois, c'est différent de juste mettre un peu de vidéo et des références cinématographiques. Donc encore une fois, je me dis, avec peut-être plus de travail, je sais pas si c'est que ça,
le film n'est pas là.
Non, mais il y a pas de film, de toute façon, il y a pas de film, donc du coup, il y a pas de la fabrication du film non plus, mais peut-être avec plus de travail, encore une fois, et plus de réflexion, ça pourrait donner quelque chose.
Florent Guettet.
Bah oui, je crois que c'est un peu la réflexion qui manque, parce que métacinématographique, ça voudrait dire qu'il réfléchit aussi les conditions du cinéma au moment où ça se fait. C'est pas simplement un dispositif matériel, et des gens comme Ilora le font beaucoup mieux, et là, à côté, c'est vrai que ça fait un peu pas le figure.
Bon, voilà ce que vous vouliez pouviez dire ce soir sur Le Bal de Jeanne
Grand
Frankel.
Grand succès, et...
Bon. Ah oui, les gens, ça marche très bien.
Bon, ben voilà, c'est important de le dire aussi. Vous étiez
dans beaucoup
des
de jeunes dans la salle.
Enthousiastes. Ce spectacle se donne jusqu'au 9 juin au Montfort Théâtre. Peut-être qu'en vous écoutant, les auteurs se disent qu'ils crèvent les critiques. Ça, c'est le titre du livre de Jean-Pierre Léonardini, dont on parlera tout à l'heure. Et puis à suivre dans la dispute également, James Baldwin, adapté par Élise Vigier.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir au théâtre, nourrie cette fois de littérature, celle de James Baldwin et de son livre qui s'appelait, dans son édition originale, Just Above My Head, juste au-dessus de ma tête, en français Harlem Quartet. Ce texte est adapté et mis en scène par Élise Vigier dans une traduction et adaptation de Kevin Keiss. Ce roman s'ouvre en 1973 à la mort d'Arthur avec son frère Hall qui se souvient de leur adolescence dans le Harlem des années 50 et de leurs amis. Julia et Jimmy.
Ce putain de sang a d'abord jailli par ses narines. Ça a fait trembler les veines de son cou. Et puis le torrent écarlate a explosé par sa bouche. Il a atteint ses yeux, l'a aveuglé. Et puis Arthur est tombé. Le coup de téléphone n'est pas entré dans ces détails. Le télégramme non plus. Il demandait ma venue de toute urgence, car mon frère était mort. La presse britannique, toujours laconique, a parlé d'un chanteur nègre, pleurnicheur et géniard, presque oublié. C'est comme ça que la presse britannique a parlé de mon frère. On l'a retrouvé mort dans des toilettes pour hommes, au sous-sol d'un pub à Londres. Personne ne m'a dit comment il était mort. La presse américaine a parlé d'un chanteur de gospel plein de sensibilité, mort à l'âge improbable de 39 ans. Mon frère commençait à perdre ses cheveux. Cette forêt tropicale de tignasses sénégalaises, je le savais, Jimmy n'était pas avec lui. Jimmy l'attendait à Paris pour le ramener à la maison. Julia avait préparé leur chambre chez elle, dans le Yonkers. Et moi, j'étais chez moi, assis à côté du téléphone. Je regardais cette merveille de la technologie humaine, le téléphone.
Take me to the water. Take me to the water. Take me to the water. To be baptized.
Alors avant d'évoquer tout à fait Harlem Quartet, nous tentons bien d'entendre un extrait, dire que c'est vrai que dans la dispute nous choisissons de préférence les spectacles qui se donnent un peu partout en France. On donne toujours toutes les dates de tournée, mais il y a d'autres moyens aujourd'hui de découvrir des spectacles, c'est par le biais des écrans, petits ou grands, et en l'occurrence des écrans d'ordinateur souvent, qu'on peut se faire projeter sur ta télé aussi. Et on va parler d'Harlem Quartet maintenant, qui s'est déjà beaucoup donné en France, mais qui est disponible jusqu'au 25 octobre sur le site Culture Box, le site de service de télévision publique consacré au spectacle justement, et c'est à partir de cette disponibilité qu'on a eu envie aussi de programmer ce spectacle dans la dispute, donc visible partout, absolument partout sur le territoire, si la connexion internet ne vous fait pas défaut. On commence avec vous, Lucille Comeau, pour parler d'Harlem Quartet, mise en scène d'Élise Vigier à partir de ce texte, ce roman de James Baldwin.
Alors moi j'étais vraiment déçue en regardant le spectacle de pas l'avoir vu en vrai, parce que c'est un spectacle qui est riche et qui a un dispositif scénique encore une fois voilà très sophistiqué. Donc il y a de la vidéo, j'en reparlerai, il y a de la musique qu'on entendait là qui est en direct à la fois du chant et puis il y a deux musiciens sur le côté. Il y a une occupation de la scène qui est très variable selon les chapitres, il y a des lumières aussi qui sont très très contrastées. Donc ça devait être quelque chose, je pense, à voir dans une salle de théâtre. Là, je sais qu'on n'est pas d'accord Arnaud, mais moi la réalisation, je trouve, apporte encore plus de rythme à un spectacle qui, à mon avis, en a déjà beaucoup. Et j'aurais aimé plus de plans larges pour voir exactement comment ça fonctionnait, les décors, la vidéo, etc. Après, filmer de la vidéo au théâtre, c'est quand même extrêmement compliqué, donc c'est déjà pas mal.
C'est Greg Germain qui signe la réalisation de ce spectacle.
En tout cas, ce qui frappe, moi, je trouve, dès le départ, quand on commence à regarder, c'est le rythme. Il faut dire qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un narrateur qu'on entendait là au début qui parle, en fait, depuis les années 70, il parle à la première personne, c'est vraiment lui qui encadre le récit. Et puis il y a divers flashbacks à plusieurs époques et qui alternent extrêmement rapidement. Bon, il s'agit surtout en effet des années 50 et de l'Amérique des années 50. Il y a ce frère qui est chanteur de gospel et qui est en tournée dans les grandes villes américaines, notamment les villes du Sud. Il y a sa découverte de l'homosexualité, c'est un des sujets importants de la pièce avec un autre membre de son groupe de gospel. Il y a aussi l'histoire via son amant d'une femme, d'une jeune fille qui était élu, donc qui a prêché beaucoup en chair dans les églises de Harlem et puis qui perd la foi après avoir été violée par son père. Au début, ça allait extrêmement rapidement. J'ai même eu du mal à comprendre les relations entre les personnages et à bien situer tous ces personnages, notamment ce quatuor principal. Donc ça dessine de manière extrêmement rapide et rythmée une histoire, mais c'est plutôt une mémoire quand même assez individuelle et très intime de l'Amérique de ces années-là. Bon, après, c'est une Amérique qu'on connaît beaucoup et le texte de Baldwin, il décrit des choses qu'on a, je trouve, bien dans la tête déjà, ce que c'est que le gospel pour les Noirs américains, la discrimination, le racisme au Sud par rapport à ce qu'était le Nord à ce moment-là et notamment Harlem. Bon, ce qui est vraiment bien, en fait, c'est vraiment sur la forme, je trouve, cette succession de scènes très courtes et qui va, à mon avis, avec la manière dont c'est joué. J'ai juste un mot sur le jeu. Parce que ça aussi, ça m'a un petit peu surprise au début et j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. C'est un jeu qui ressemble, à mon avis, si on est méchant, mais en fait, pour moi, c'est plutôt un bon effet, à une VF de film. C'est-à-dire comme un doublage de film américain. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme et que le texte est traduit. Je pense que c'est fait exprès, hein, mais il y a beaucoup de choses qui sonnent à l'anglaise dans l'oreille. Et puis, parce que c'est un débit, moi, qui me fait vraiment penser à de la série télévisée, dans le bon sens du terme, dans le sens où c'est efficace, où ça avance, où les corps sont bien engagés. Donc, en fait, c'est un jeu qui m'a finalement assez plu après m'avoir rebuté dans le premier quart d'heure, disons.
Je reviendrai également vers vous, Lucille. René Solis, premier regard sur ce Harlem Quartet.
Alors, comme Lucille l'a dit, c'est un exercice quand même un peu particulier, un peu difficile que de finalement critiquer une captation de théâtrale.
Parce que c'est pour ça que je l'ai posé comme tel. Non, non, mais c'est de ça qu'il s'agit.
C'est intéressant d'en faire de temps en temps, parce que c'est vrai qu'on.
C'est un moyen d'accès un peu plus démocratique.
Moi, je n'avais pas vu le spectacle, visiblement. Je crois qu'aucun d'entre nous à cette table ne l'avait vu. Et donc, j'ai.
Il y en a une, c'est Aïssa Tundoy, qui l'avait vu.
Et donc, j'étais en le regardant, toujours entre tiraillé entre m'imaginer le spectacle tel qu'il était, donc essayer de m'imaginer dans la salle, et avec un regard critique sur le film que je voyais à l'écran, sur les images filmées. Donc c'est un exercice un peu compliqué. Alors il faudrait presque séparer les deux choses, quoi. Sur la façon dont c'est filmé, c'est extrêmement compliqué, on le sait, de filmer le théâtre au cinéma. Dans ce cas-là, c'est d'autant plus compliqué qu'effectivement, il y a dans le spectacle l'intégration d'images et d'images vidéo. Donc comment filmer de la vidéo, enfin bon. Et il s'en tire. Je suis pas très convaincu par la façon dont Greg Germain, qui signe la réalisation, s'en tire. Je trouve qu'il a surtout au début. Alors c'est drôle parce que peut-être qu'au fur et à mesure il a un peu plus planté les choses,
pris son temps, voilà. Laisser plus de temps à l'espace du réel du jeu. Ouais.
Et mais au début il a tendance à multiplier les points de vue,
les effets,
et les actes les points de vue. Et c'est-à-dire que on sait jamais. Donc, en gros, il y a plan large, plan moyen et gros plan. Hein, c'est les trois outils. Le plus souvent, la caméra, elle prend un point de vue de spectateur, elle est dans la salle et elle se sert juste de ses focales pour rapprocher ou éloigner. Voilà. Donc, il fait ça, mais au bout de quelques secondes, on a l'impression que ça l'ennuie. Donc, il passe tout le temps du plan large au plan moyen et au gros plan. Et ensuite, il fait des mouvements. Enfin, ça part de tous les côtés. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me centrer sur le spectacle. Il y a des scènes évidentes. Par exemple, il y a un moment dès le début où il y a des images filmées très belles, une vidéo qui est une vidéo de l'époque. C'est une image qui est pas de bonne qualité. Alors en plus, elle est refilmée, elle est encore moins bonne. Les définitions sont pas bonnes, mais c'est très beau. Ça, c'est une avancée dans une banlieue résidentielle américaine. Et pardon, le Hall, le narrateur, raconte comment ça a déployé cette histoire. Et on se dit, mais il faut évidemment qu'il se fixe uniquement sur ces images et qu'on entende la voix. Or là, pareil, on passe des images. Bon, voilà. Donc, mais tout ça, c'est pas très grave. Ce qui est sûr, je passe à la deuxième partie, c'est en fait de m'être imaginé dans la salle et d'avoir imaginé le spectacle. Et elle s'est donné du mal, Élise Vigier, parce que c'est du boulot et c'est plutôt du bon boulot. C'est vraiment du théâtre récit. Alors ça s'y prête très bien, mais on voit qu'elle a bien travaillé, bien pris les fils, cette histoire du narrateur, du grand frère qui raconte les flashbacks, le fait d'avoir réduit quand même beaucoup le nombre de personnages, de se centrer sur quelques-uns, enfin tout ça est quand même plutôt apparemment très réussi. Encore une fois, je regrette, je voudrais le voir en salle. Et évidemment la multitude des thèmes évoqués là aussi, bon, elle tire tous ses fils et ils apparaissent très clairement. Il y a tout, oui, il y a le gospel, il y a l'Amérique des années 50, il y a le racisme, il y a la lutte pour les droits civiques, il y a la guerre de Corée, il y a les rapports entre l'Europe et les États-Unis, il y a l'histoire du musicien qui finit mort sordide en Europe dans les toilettes d'un bar. Enfin bon, il y a énormément de thèmes, d'une saga familiale, sociologique, politique, et la fidélité au roman, je pense, elle est belle, elle est forte, et donc c'est du bon boulot.
Du bon boulot, vous citez Élise Vigier, je rappelle, mais j'ai déjà dit que c'est aussi Kevin Keyes qui a lui-même retraduit, adapté, assuré la dramaturgie aux côtés d'Élise Vigier. C'est vraiment un travail en duo. Kevin Keyes, dont on a déjà parlé, notamment pour sa collaboration avec Clémence Poésie. C'est quelqu'un qui est aussi auteur lui-même, et je pense que c'est important pour ce travail-là. Regarde Florian Guettet à présent sur Harlem Quartet.
Alors, un mot comme mes petits camarades sur la réalisation. Moi, j'ai trouvé que ça servait plutôt. C'est une expérience, effectivement, involontaire, accidentelle, mais moi, ça m'a donné une autre lecture, puisque effectivement, dans la façon de réaliser au cinéma, il y a quelque chose de plus autoritaire dans le geste de montage, dans le fait de choix, d'angle de vue, etc. Quand on compare à la liberté, on va dire, du spectateur dans la salle, quoi. Mais ça a provoqué une sorte de montage, de travail de montage, de regard comme ça monté, qui, je trouve, rejoint assez le séquençage en fait historique du livre. Et le fait que, effectivement, il n'y a pas déjà une chronologie très très décidée dans l'œuvre originale, et que ça a tendance à appuyer cette façon d'emboîter, de faire des excursions, en tout cas de se départir de la vision de la chronologie, en tout cas, de cette chronologie-là. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt réussi, d'autant que ça ramenait quelque chose de l'ordre du cinématographique et du romanesque. Et j'ai eu l'impression d'une fresque, comme ça, et ça m'a fait vraiment cet effet-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'histoire individuelle de ces personnages, qui est presque une histoire amicale, amoureuse, familiale. Et puis, il y a l'histoire de l'époque. Il y a la fresque historique, avec toutes les évolutions aussi sur la considération des Noirs, comment, d'un coup, ils ont le droit à accéder au restaurant, puis ensuite à des postes à responsabilité, ils sont jeunes cadres dynamiques, on voit les mannequins dans les magazines, etc. Donc il y a vraiment, on suit le parallèle entre la petite histoire et la grande. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt réussi dans ce contexte-là du montage séquencé. Ensuite, sur le fond du sujet, quoi, sur cette ambiance-là de cette Amérique des années 50, de la discrimination, et puis comment on passe finalement du gospel dans les églises au club à New Yorkais, ou alors effectivement à Atlanta quand ils vont vers le sud. Comment on passe finalement de l'Amérique puritaine, spiritualiste, à quelque chose de beaucoup plus transgressif? Et comment ça se passe psychologiquement quand on vient d'une famille plutôt croyante? Et Julien incarne ça. Julien, elle prêche, et elle prêche vraiment comme on peut l'avoir chez les évangélistes, avec beaucoup de conviction. Elle est pratiquement en transe. Elle est hyper moraliste. Elle emploie vraiment des métaphores domestiques, ménagères. Enfin bon, très très conservatrice. Et à côté, elle a ces personnages qui sont plus ou moins bisexuels au début. Il y en a un qui est vraiment homosexuel, mais finalement Jimmy, il va un petit peu à droite et à gauche. Ils ont une langue parfois très très crue, avec on a comme ça des descriptions très décomplexées des premières nuits, la première nuit avec Julia, la première nuit d'Arthur avec un homme, et on ne lésine pas sur le langage très cru. Donc comment on passe aussi de quelque chose de très pudique à quelque chose qui l'est beaucoup moins? Et ça, j'ai trouvé que ce basculement là était vraiment tenu, parce qu'on a une indécision en fait tout le long dans le texte et dans le jeu, et puis qu'on a cette progression beaucoup plus historique aussi des années 50 aux années 70 et même après. Donc sur ce point de vue-là, moi j'étais plutôt convaincu.
Ben là-dessus, justement, je trouve que c'est là que c'est très fidèle à James Baldwin, parce que ça ressemble beaucoup quand même. Enfin, moi j'avais relu ce livre il y a 2 ou 3 ans, donc il était quand même assez frais dans ma mémoire, et c'est quand même ça, hein, Baldwin, c'est à la fois politique, intime, poétique, cru. Enfin, il y a quand même tout ce
côté-là. Oui, mais disons que l'adaptation au cinéma ou au théâtre, pardon, on aurait pu croire justement que qu'on appuie le côté visuel. Alors là, la scénographie est assez neutre. Ouais. Du coup, on n'a pas toutes les images d'Épinal. Elle n'est pas non plus très chargée. Je veux dire, on n'a pas non plus les ambiances.
Non, elle bouge beaucoup, mais il n'y a rien.
Enfin, voilà, elle bouge beaucoup. Ce sont des panneaux. C'est Yves Bernard
qui est le scénographe. C'est justement très réussi.
Il y a une des choses très réussies, c'est justement la façon dont l'espace est recomposé sans cesse, avec très peu d'éléments de décor. Mais on fait un dortoir.
Il y a quand même une iconographie assez importante. Il y a quand même des photos et des bouts de films.
Il y en a quand même des images d'archives. Archives et film tourné, je crois, aussi par Élise Vigier dans le Harlem contemporain, mais voilà, images retravaillées qui ont elles aussi un grain. Mais c'est vrai que cette utilisation de l'espace, moi, j'ai trouvé très, très forte, parce que ça va très vite, vous le disiez, Lucille Como, et on change très vite d'une atmosphère à une autre, d'une époque à une autre, d'un lieu précis à un autre, et ça, c'est quand même, je trouve, très réussi. Concernant Julia, moi, il me semble, mon souvenir dans le livre est que justement, ce qui est difficile à traduire pour le coup scéniquement, c'est que c'est quelqu'un qui était, on va dire, plus charismatique, au sens que, il me semble que dans ses prêches, elle n'en fait pas tant que ça, comme l'interprète Ludmila Dabo, qui est très bonne. Hein. Faut quand même souligner cette distribution que je trouvais très homogène et quand même de très très grande qualité. voilà, traduit scéniquement, c'est vraiment, sont vraiment des prêches qui montent en puissance et qui sont très dans la harangue et qui sont très impressionnants. Dans le livre, c'est quelqu'un qui arrive à capter l'attention en bougeant à peine, dans mon souvenir. Mais voilà, ça, c'est une traduction, peut-être. C'est plus difficile à faire
Mais là,
au théâtre.
Elle la capte en chantant, parce que c'est elle qui chante le mieux.
Autre point, vous parliez de musique tout à l'heure pour le bal. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais c'est souvent une chose qui me pose problème, moi, au théâtre, quand on a des musiciens et des comédiens qui chantent souvent pas très bien. Et là, on a quand même un niveau d'interprétation que je trouve très beau. Enfin, moi, ça m'a... Bon, la spécialiste aussi
commotive un peu, là, non, tout de suite. Non, mais ils chantent en effet pas tous aussi bien que Ludmila Dabo. Elle chante très bien.
Mais c'est pas grave.
C'est ce que je voulais dire. Ça n'a pas vraiment d'importance qu'ils chantent vraiment bien. Et en revanche, les deux musiciens sont formidables. Ah oui, non, moi je parlais des deux chanteurs.
Non, mais c'est ça que je voulais dire quand même au niveau musical, que ce soit les interprètes instrumentistes.
Ah oui, non, mais surtout, ils jouent tout le temps. Enfin, je veux dire, là, il y a une présence de la musique qui... Bon, c'est là aussi que le romanesque est en effet un des points importants. Je pense que la musique, elle joue ce rôle-là, un rôle de mise en récit, de dramatisation permanente des scènes. Et elle fait le lien, justement, dans une scénographie très hachée. Je trouve la musique très très belle, et moi aussi j'ai beaucoup de mal souvent avec la musique sur scène.
Ah oui.
Donc là, c'est
pour ça que je voulais vraiment le souligner, parce que ça fait partir des plaisirs absolument physiques.
Ouais, et puis c'était très étonnant. Effectivement, on a du gospel, on a du blues, on a dans tout ça, mais on a aussi du rock progressif.
Oui, des nappes électroniques, beaucoup expérimentales.
C'est très riche au niveau de la partition. Alors, donc, du coup, il faut citer les musiciens Manu Léonard et Marc Sens. C'est pas tout à fait n'importe qui en même temps. Ce sont des musiciens à part entière. Et moi, alors, je finis par là, du coup, mais moi, je trouve la réalisation de Greg Germain plutôt très réussie aussi, n'ayant pas vu le spectacle en salle. Je trouve que c'est une autre lecture. Moi, je suis souvent très gêné, je suis plutôt... comme vous, René Solis, moi je me dis, il faut filmer, il faut mettre une caméra sur pied au milieu de la salle et rester en plan fixe, et en plan général, si on veut avoir une idée du théâtre, mais c'est pas vrai, parce que la caméra en plan fixe au milieu de la salle, c'est pas le ressenti du spectateur qui lui tourne la tête, fait ses propres zooms. Donc forcément, c'est une autre lecture et c'est un autre regard qui nous est proposé, directif, coercitif, contraignant. Enfin, on peut pas regarder ailleurs que ce que veut nous montrer le réalisateur. Mais moi, dans l'ensemble, je trouve qu'il y avait une assez grande fluidité, même si il peut y avoir des changements d'axe ou de focale rapide. Je trouve qu'il y avait une forme d'élégance qui allait bien avec ce qui était proposé sur le plateau, avec le rythme des comédiens. Enfin, on a des avis un peu différents sur cette question-là. Et avant de vous redonner la parole, sur le site des Lucioles, on nous signale les prochaines représentations. Les Lucioles, c'est la compagnie d'Élise Vigier, entre autres. À Princeton, au mois de septembre, au fameux festival de théâtre de Princeton. Mais 30 janvier et 1er février 19, MC2 de Grenoble. 26 et 27 février 19, au CDN d'Orléans. Et en mai 19, ce sera au festival Théâtre en mai, au CDN de Dijon, qu'on pourra voir en vrai, Harlem Quartet. Quelques mots encore sur cette production, Florian Guettet?
Juste dire que j'étais aussi très satisfait de voir que le récit et discrimination n'allaient pas de pair avec un ton victimisant, misérabiliste, etc. Moi, j'ai pas trouvé.
Pas d'accord, Lucille Comeau?
Moi, je trouve que, mais de toute façon, c'est assez propre au texte de Baldwin, et avec le romanesque va une forme de lyrisme qui parfois a un petit côté sentencieux. Je trouve que la fin de ce point de vue donne une grande part à ce caractère-là de l'écriture de Baldwin, moins à son côté sarcastique que je préfère.
Bien sûr.
Et du coup, sur toute la question aussi, politique, il y a des choses très bien, notamment le passage sur la guerre en Corée ou les questions du racisme anti-coréen qui est vraiment... Mais ça dure 2 minutes. Ouais. Après, sur, par exemple, les grandes phrases sur le gospel, sur ce que c'est que le gospel dans la culture afro-américaine, bon, je suis moins convaincue, et là, je trouve que la mise en scène a tendance un petit peu à accentuer le côté ultra-lyrique du texte de Baldwin. Mais bon...
Moi, j'aime beaucoup, mais c'est quand même une autre époque aussi où ces choses qu'il dit, on les avait pas beaucoup lues ni entendues.
Mais justement, c'est une adaptation. Donc après, on peut faire des choses.
En plus encore d'actualité quand il dit la honte du Nord façon des blancs. On est d'accord que c'est un peu plus historicisé, mais quand il dit que chaque chose que dit un blanc, un noir est une confession, un aveu, même si le blanc ne le sait pas ou n'en a pas conscience. Aujourd'hui, je pense qu'on retrouverait encore des situations où et dans l'actualité très très proche, sinon journalière, où on pourrait encore avoir ce genre de discours-là. Et je trouve que c'est toujours compensé par justement une forme de trivialité de la scène de chambre. sombre trivialité, et souvent dans des ruptures très brusques. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'installer, en tout cas, dans le truc larmoyant.
Bon, sauf cas, à la fin.
Bon, vous êtes
non,
pas
mais je suis d'accord,
là-dessus.
Mais juste la fin, c'est vrai que c'est.
Alors je vous laisse la fin.
Un peu trop.
Bon, Harlem Quartet, d'après James Baldwin, mise en scène Élise Vigier, à voir donc sur Internet, sur le site de Culture Box. Ce spectacle reste disponible par ce biais jusqu'au 25 octobre.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute théâtre est un livre, celui de notre confrère de l'humanité Jean-Pierre Leonardini, un livre intitulé « Qu'il crève les critiques », un clin d'œil bien sûr à Tadeusz Kantor qui avait signé ce spectacle, « Qu'il crève les artistes ». Ce livre est publié aux Solitaires Intempestifs. Quelle mouche me pique après tant d'années d'exercice légal de la médecine critique de vouloir porter par écrit un diagnostic hasardeux sur une activité d'aussi peu de valeur fiduciaire ? Passe encore de pâtir mes planchers à cet âge, c'est que j'aurais l'impression, n'écrivant pas ce livre, d'éviter un bilan et de compter pour rien toute une existence d'activité pratique dans un domaine dont la validité concrète apparaît malaisément mesurable, pour ne pas dire impossible. Le temps est venu, n'est-ce pas trop tard, d'un peu sérieusement me pencher sur l'espèce de forcerie que constitue cette accumulation de spectacles, lesquels, scandés sur quelques 50 ans au bas mot, saison après saison, au soir le soir, dit Bertrand Poirot-Delpech, ont pu conduire quelqu'un, à l'origine plutôt bon à rien, en se muer en un genre de spécialiste. Georges Bernard Shaw n'affirme-t-il pas que tout homme qui est un spécialiste est, dans le strict sens du mot, un idiot, soit une forme de monstre anodin en un domaine dont la nécessité sociale s'avère de plus en plus aléatoire. On ne n'est pas critique, on le devient au hasard des rencontres, par la force des choses. Pour ma part, c'est d'avoir pu accéder au journalisme en vue d'éviter l'usine ou le bureau. Voilà le début, hein, c'est le début de l'avant-propos de ce livre de Jean-Pierre Leonardini, qu'il crève les critiques aux Solitaires Intempestifs, et ce début qui pose le cadre de ce livre, qui va être un voyage dans le temps et aussi une réflexion sur ce curieux métier. René Solis.
Oui, alors j'aime beaucoup ce début du livre de Leonardini. J'aime plutôt bien son livre. Et moi, j'aime beaucoup le style de Leonardini. Je suis extrêmement sensible à cette espèce de classicisme sans faille, si je puis dire, d'une élégance qui est réelle. Sait quand même écrire, et je trouve drôlement bien. Il sait manier les adverbes, il connaît le maniement de l'incise, voilà, la phrase longue, il sait aller au bout et il sait la rendre harmonieuse. C'est un plaisir de lire ses chroniques, toujours, parce que c'est des petits morceaux de littérature. Il revendique la critique théâtrale et la critique comme un genre littéraire.
Oui. Il le répète
plusieurs fois. Et voilà, moi, je lui suis reconnaissant d'être ce qu'il est à Jean-Pierre Leonardini. C'est-à-dire, d'abord, ça fait quand même 50 ans, ce qui n'est pas rien, qu'il écrit sur le théâtre, qu'il y va. Je trouve qu'il a toujours un œil et un regard extrêmement à la fois aigu et bienveillant en même temps, et qu'il a une capacité à ne pas être ni aigri, ni bloqué dans des certitudes, à avoir toujours la curiosité en éveil. Et je dois dire aussi que l'élégance qu'il y a dans son écriture, à laquelle je suis très sensible, correspond aussi à son personnage. C'est une des personnes les plus élégantes que je connaisse. C'est un des spectateurs de théâtre les plus élégants qui soient. C'est un dandy,
un dandy,
on peut le dire.
D'ailleurs, il y a une photo de lui sur la couverture du livre. Il a un profil hollywoodien.
Hollywoodien, la moustache Errol Flynn. En même temps, il a toujours la pochette à la... À, 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 à,
poche.
À la poche, et des chaussures absolument impeccables. Et une, voilà, une, l'élégance, il la manie naturellement tous les jours. Alors, c'est un livre qui est je trouve fort par ce qu'il pose, en tout cas dans ses premières pages, sur ce qu'il revendique. Sur l'importance de la critique, c'est assez touchant que ça vienne aussi de quelqu'un qui a œuvré dans ce journal qui est l'Humanité toute sa vie et auquel il est resté totalement fidèle. Alors on peut critiquer d'ailleurs sa fidélité jusqu'au bout, mais c'est un dinosaure, hein, c'est un survivant,
Il y est resté par choix, il a eu des propositions.
Donc c'est un survivant du communisme et de la critique de théâtre, on peut dire ça comme ça. Et alors, on peut dire que son livre, je trouve que les 20 ou 30 premières pages laissent attendre beaucoup, et que après, il a tendance à, il veut pas ennuyer son lecteur, il veut pas s'ennuyer lui-même, donc il fait pas vraiment une autobiographie. Il a le souci de mettre beaucoup de choses, il a une mémoire formidable, il se souvient de beaucoup de choses, il se souvient de choses extraordinaires. D'ailleurs, un des mérites du livre, c'est de ramener, de remettre en mémoire des choses, évidemment des aventures très importantes. Il a été partout quand même, il était à Bayreuth avec Chéreau, il a été dans tous les grands festivals d'Europe, il a tout vu, des premières, enfin bon, et à chaque fois il a des histoires à raconter là-dessus, et qui sont souvent passionnantes. Mais il y a aussi le plaisir de voir remonter à la surface des noms beaucoup plus oubliés, c'est très intéressant. Par exemple, plus ou moins, il y a une défense très belle d'Arthur Adamov sur une ou deux pages, et moi je suis très content de lire cette défense d'Adamov, parce que j'ai toujours pensé que c'était un auteur qui est totalement injustement oublié, que c'est un des grands auteurs de théâtre du XXe siècle et qu'il faudrait le redécouvrir. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, il a tendance à en mettre un peu trop, et donc l'accumulation, voilà, on a l'impression qu'il empile un peu les souvenirs, les noms, il a le souci de rien oublier, et qu'il manque peut-être à ce moment-là un peu de ligne directrice pour aller au bout de son projet. Mais enfin, c'est quand même un livre que j'ai trouvé, moi, que j'ai lu avec énormément de plaisir, je trouve utile, intéressant et fort quand même.
Florian Guettet, sur ce livre de Jean-Pierre Leonardini.
Ce qui frappe peut-être à première vue, à première lecture, c'est effectivement le style. Je rejoins René quand il parle d'élégance, mais au sens littéral du terme, l'art de bien choisir. Je trouve qu'il choisit bien ses mots, même si après, effectivement, il y a une tonalité un peu vieillotte qui, moi, me laisse voilà, un petit peu plus sceptique. Mais bon, pourquoi pas, on prend ce plaisir là aussi. Mais, c'est vrai que faut peut-être le lire aussi depuis 25 ans, je crois qu'il est à l'Humanité, peut-être pour s'imprégner de ce style. mais voilà, la langue est vive, déliée, elle est quand même, elle s'adresse beaucoup à nous. Ça veut pas dire qu'elle reste dans quelque chose de très sage, hein, ou très polissé, au contraire, elle peut aller dans le familier, dans l'art gothique, voire dans le vulgaire. Alors, des fois avec quelques fautes de goût quand même. La critique en bonne ménagère fait son marché en tâtant les fruits du jour. J'ai trouvé ça un petit peu limite. Ce style, il est mis au service de quoi? Mais il est mis au service de mémoire, parce qu'en fait ce terme qu'il crève les critiques, c'est effectivement repris à Cantor, et Cantor a sous-titré sa revue, il disait que c'était un testament anticipé. Et effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du bilan entre les mémoires, l'autobiographie et les notes, plutôt qu'un argumentaire sur la critique, comment il envisage ce métier, hein, puisqu'il défend vraiment l'idée professionnelle de la critique, qui est aussi un art. C'est pas lui évidemment qui invente cette idée, en tout cas il poursuit cette tradition-là. Moi, je suis à peu près d'accord quand même avec sa définition de la critique, alors j'ai quelques réserves quand même, mais sur l'idée que la critique, elle est ni objective, ni neutre, ni impersonnelle, qu'il faut arrêter avec cette illusion-là, qu'elle est passionnée, qu'elle n'est pas innocente, qu'elle n'est certainement pas désintéressée, que c'est une écriture, ça, je le crois aussi, que c'est une écriture, comme c'est la critique peut être artiste, finalement les critiques peuvent être aussi des auteurs, et il y a tout un passage aussi sur ces critiques comme Tesson, comme Barthes, Hart, comme Temkin, qui était à la fois auteur et critique, et comme le style, comme curseur de la balance. Maintenant, là où je reste moi un peu plus sur ma réserve, en tout cas où je rentrerai un peu plus dans le débat avec lui, c'est sur cette dichotomie critique, ce qu'il appelle universitaire. Alors, comment, bon, bah, j'irais critique philosophique déjà parce que je viens de là, mais effectivement Diderot, etc. On peut pas dire que ce soit une naissance universitaire de la critique, mais plutôt une critique philosophique. Et donc il oppose métaphore au concept, ce que je trouve pas forcément nécessaire parce que finalement, je crois que la critique, elle se doit au contraire de penser les deux dans un ensemble. Il y a aussi une sorte de position un peu polémique sur le plagiat. Où il cite Brecht, où il dit finalement le plagiat c'est l'abolition de la propriété privée en art. Je suis pas tout à fait sûr de pouvoir y souscrire, ou en tout cas ou alors il aurait fallu un peu plus d'arguments pour que je sois convaincu. Là, juste annoncé comme ça, c'était pas assez pour moi. Et puis surtout sur la situation de connivence, il dit le critique à mes yeux se doit d'agir avec les artistes dans une connivence à base d'amicalité, ce qui n'abolit pas l'appréciation ferme et résolue. Ben, moi je suis beaucoup plus réservé là-dessus. Je suis pas sûr que le critique doive être toujours l'ami des artistes, et que être l'ami des artistes, ça serve une position assise, ferme et résolue. Donc voilà, ces petits points-là donnent matière à discuter. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a peu de place pour cette discussion-là à l'intérieur, parce qu'on est dans un récit qui est quand même assez intimiste, très personnel. Donc que moi j'ai lu avec plaisir. Hein, très honnêtement, je l'ai lu très très vite. Je me suis pas arrêté tous les 10 pages en soufflant, hein, pas du tout. Mais souvent, j'ai trouvé ça un peu rapide pour que moi je puisse me poser le temps de mes questions.
Lucile Gomeau, enfin, qui fait tellement de mimiques à chaque fois que ses camarades parlent, c'est toujours un plaisir de vous regarder, Lucile.
Oui, non, mais je vais rebondir sur le côté vieillot, et vieillot pas forcément au mauvais sens du terme d'ailleurs, parce que dans l'écriture, moi ça m'a vraiment frappé, il y a quelque chose de qui regarde vraiment vers le 19e siècle. Enfin, pour moi, c'est vraiment un livre de mémoire comme on aurait pu en écrire un à la fin du 19e siècle, quand il décrit notamment les locaux de l'Humanité au moment où il arrive. C'est les années 60 quand même, hein, c'est pas les années 1890. On a vraiment l'impression que c'est le début de Bel Ami quand Georges Duroy arrive et qu'on lui présente les types dans la salle de rédaction. Donc il y a un côté extrêmement suranné qui, moi, me laisse un petit peu à l'extérieur. Il cite sans cesse Rimbaud et Baudelaire, donc quand vous dites dandy, c'est exactement cette posture-là qui le tient. C'est quand même une écriture, vous dites classique, moi je trouve pas du tout, au contraire, elle est extrêmement imagée, elle est remplie. Parfois c'est un petit peu fatigant, je fais juste une petite citation, il parle du Festival d'Avignon. Le festival apparaît aujourd'hui plus qu'hier comme une île artificielle dressée au milieu d'une cité appauvrie le reste du temps. Au vent mauvais surgit des urnes, les vagues polluées du ressentiment viennent lécher les hauts murs de la cour d'honneur. Bon, c'est quand même beaucoup ça, et ça me permet de rebondir sur autre chose, parce que je vais faire ma prof, on parle pas de style sans parler de fond. Moi, je crois que c'est vraiment un livre qui se situe à la lisière entre le retour sur soi et la réaction. Quand même, on va attaquer un peu sur le fond. Le théâtre qu'il défend dans ce livre est un théâtre particulier, qui est quand même plutôt un théâtre de texte. Il y a des attaques quand même assez virulentes sur le théâtre qu'il appelle plasticien, et de manière générale...
Surtout
Yann Fabre. Oui, Yann Fabre, Rambert aussi.
Mais non, Rambert, il dit qu'après, il peut avoir détesté Culture de l'amour, il est ravi de le saluer. Et de...
Oui, mais tout ça se situe dans un contexte politique qui détermine et qui se permet quand même parfois plusieurs excursions vers la situation politique générale, sur le Front National, sur l'islamisme. Il y a des généralités quand même énormes, mais qui déterminent par ailleurs son propos critique. C'est pour ça que je me permets de les citer. Par exemple, les humanités d'autrefois sont lettres mortes. Il y a plus de jeunes filles qui lisent l'éducation sentimentale dans le métro. On a envie de lui dire, il y a plus de jeunes filles qui lisent l'éducation sentimentale que dans les années 60. Donc, en fait, moi, ce qui m'émeut et me rend peut-être un peu même triste dans ce livre, c'est que je trouve que c'est vraiment le portrait des contradictions de l'homme de gauche des années 60-70, vraiment. À la fois dans sa vision du théâtre et dans ses visions politiques, je trouve que la fin, par exemple, est quand même assez terrible et un peu pauvre idéologiquement. Il n'arrête pas de dire, il ne faut pas dire que ça va moins bien qu'avant, que c'est moins bien qu'avant, mais de fait, il ne cesse de dire ça. Il ne cesse de dire qu'on est dans une numérisation de la critique, sur les réseaux sociaux et Internet, vraiment, il y a un côté vieux schnock qui est assez drôle et en même temps qui est un petit peu agaçant parce que ça détermine de fait les conditions d'exercice de la critique aujourd'hui, qui sont des conditions à la fois juste sociales de l'écriture, où on écrit quand on peut pas écrire à l'UMA, on écrit sur un blog. Donc il y a un truc un peu énervant quand même sur sa stature qui est une posture de dandy, certes, et ça a un côté extrêmement séduisant, mais qui joue un petit peu avec la réaction, moi, je trouve.
Bon, je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai envie de dire sur ce livre, puisqu'il est 19h57 et 20 secondes, c'est-à-dire de terminer cette émission, qu'il crève les critiques de Jean-Pierre Leonardini aux éditions des Solitaires Intempestifs. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que comme je le disais René Solis, je pense que c'est un livre qui a une valeur de témoignage, d'époque, de temps, et qui pose quand même pas mal de questions, même si j'aurais aimé aussi qu'elle soit davantage poussée sur qu'est-ce que c'est qu'être critique. Il les pose beaucoup hier, on a envie de les poser aujourd'hui, mais fort de son regard, de son expérience, tout ce qu'il a croisé. Bon, beaucoup de choses à lire, vraiment, à dire et à lire. Donc, il crève les critiques, ce livre de Jean-Pierre Leonardini. Concluons au pas de course avec Camille André qui nous a rejoint. On va oublier la question de vendredi, on va passer au jeu de ce soir. Des invitations à gagner pour une exposition, celle de Robert Adams à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Exposition à découvrir jusqu'au 29 juillet. Quelle est la question, Camille ?
Eh bien, lors de cette série présentée, comment Robert Adams parvenait-il à dissimuler son appareil aux personnes qu'il photographiait ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur notre émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et n'oubliez pas de vous abonner ou de réabonner au podcast de la dispute pour l'avoir à disposition. Demain, 19h, une dispute consacrée à la musique. Nous serons en compagnie d'Anna Sigalevitch, Mathieu Conquet et Emmanuel Dupuis. À notre affiche, une création mondiale, Germania, d'Alexander Raskatov. Mise en scène, John Full James, direction Alejo Pérez, c'est à l'Opéra de Lyon. Orfeo et Ed Eurydice de Gluck, mise en scène Robert Carsen, direction Diego Fasolis, c'est au Théâtre des Champs-Élysées. Puis enfin, un coffret de 5 CD, pas moins, d'Emile Gilels.